Cécile Barra.
Pas toujours facile de concilier la protection de la biodiversité et les enjeux économiques de la chasse. Et pour comprendre, nous partons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au nord du Bénin, dans la réserve de chasse de Konkombri qui longe le parc de la Panjari. C'est là que vous avez fait votre reportage, Agnès Rougier. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile. Oui. Cette zone de chasse donc de Konkombri fait partie de la grande zone cynégétique de la Panjari, qui est donc un grand espace de 5000 km² qui longe complètement ce parc de la Panjari, qui est aussi une réserve de biosphère donc de l'UNESCO. Et cette zone cynégétique est coupée en fait en petites zones de chasse privées, dont Konkombri, où nous sommes partis là en reportage. Alors, pour situer un petit peu, d'un côté de Konkombri, il y a la grande chaîne de montagnes de la Takora. De l'autre côté, long de la Panjari, il y a la rivière Panjari. La Panjari jouxtant elle-même le parc du W. C'est une zone où il y a beaucoup d'animaux.
Beaucoup de gros gibier, comme disent les chasseurs.
Voilà. Mmh. Et donc, on y pratique la grande chasse, la chasse au gros gibier. Alors en fait, c'est extrêmement réglementé. Pour chasser, vous allez entendre qu'il y a toutes sortes de règles à respecter. Pardon. Et notamment, il faut partir avec un guide de chasse.
C'est ce que vous avez fait.
Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Patrick Martin à Konkombri. Il y a seulement deux guides de chasse pour un espace de 47 000 hectares quand même. Deux guides de chasse, dont Patrick Martin. Sur ce campement de Konkombri, il y a une vingtaine de personnes locales qui travaillent de façon saisonnière. Mais en réalité, il y a très peu de gens qui travaillent sur place de façon continuelle. Dans ce reportage, nous allons également croiser Jafaru Alitiomoko, qui est le directeur du parc de la Panjari, et avec qui nous en avons visité une partie. Donc on a pu croiser beaucoup d'animaux effectivement. Et puis Serge, qui est natif de Tangueta, juste au bord du parc, qui est revenu y travailler depuis quelques années, il est revenu avec tout son cœur et avec beaucoup de plaisir. Alors la grande chasse, c'est la chasse au gros gibier, des lions, des buffles, des hippotragues. Mais alors qui peut venir chasser là-bas, en Afrique de l'Ouest?
Oui, on fait venir les gens du monde entier. On a des Français, des Américains, des Allemands, on a des Sud-Africains qui viennent chasser. Et ils viennent uniquement chasser les animaux que le parc nous attribue en quota d'abattage. Donc ils estiment, eux, en surpopulation. Voilà.
Alors justement, comment ça fonctionne? On compte les animaux par population, par espèce? Vous pouvez nous raconter un petit peu quel processus est suivi, Patrick Martin?
Tous les ans, il y a des comptages à pied. Il y a même des comptages en saison sèche, en période de chasse, des comptages tous les mois. On a quelques transecs, les gens tous les mois font les transecs et font leur comptage. Ça, on le fait chaque année et au bout de 2 ou 3 ans, on vérifie tous ces comptages par un comptage aérien, un comptage massif aérien. Et en fonction de ces comptages, et d'une règle de 3 assez savante évidemment, on détermine les animaux qui sont en surpopulation et donc qu'on peut abattre. Et c'est ce qu'on fait nous ici. Voilà.
Alors s'il y a besoin d'abattre des animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de prédateurs pour les animaux présents dans cette zone-là, Patrick Martin?
Non, d'abord il n'y a pas assez de prédateurs. La raison est très simple en fait, c'est qu'on a une surpopulation d'animaux, vu que c'est pour cette région ici et même dans la sous-région, c'est le seul endroit où il reste encore de l'espace et où les animaux sauvages ont la quiétude. Le problème de nos pays ici, c'est qu'il y a une très grosse démographie, donc de moins en moins d'espace, et les animaux se concentrent de plus en plus sur le parc W, sur le parc Panjari, et donc on a des surpopulations d'animaux qu'on n'avait pas avant.
Oui. Il n'y a plus de régulation naturelle?
Non, avant il y avait beaucoup plus d'espace, donc à manger partout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace, les animaux se trouvent confrontés aux populations, aux routes, etc. Donc on est en surpopulation animale dans ces régions-là.
Cette année, en 2008-2009, sur une saison de chasse, qu'est-ce qui est prévu, quel est le quota de chasse pour cette année, Patrick Martin?
Alors, le quota de chasse, il y a 5 zones de chasse au Bénin, 5 camps de grande chasse au Bénin. Donc, pour l'ensemble des 5 camps, qui se partagent entre le parc W et le parc Panjari, on a environ une centaine de buffles à abattre. Je dis bien pour l'ensemble de la chasse au Bénin. Hein. Une centaine de buffles à abattre, on a très peu de lions, 5 lions à abattre. Puis par espèce d'antilope, environ 75 ou 100 antilopes par espèce sur l'ensemble du Bénin. Ça fait à peu près un millier d'animaux quand même, ou pas un millier, mais 600, 700 animaux au total sur le Bénin abattus chaque année.
comme de buffons. Ouais.
Il y en a plein ici, c'est comme si...
Oui, c'était...
C'est comme les moutons dans les prés.
Oui, on les appelle ici les moutons de la Pingarie.
Ah oui,
parce qu'ils sont tellement nombreux. Surtout si c'était la saison sèche, vous allez les voir comme vraiment dans une prairie, des moutons laissés dans une prairie, ici, surtout à cette place-là.
Pour avoir une idée, combien coûte un permis de chasse, combien peut coûter, je sais pas, un buffle, Patrick Martin?
Alors, un permis de grande chasse, ça coûte 458 euros. Un buffle, c'est 610 euros. Les antilopes, ça varie entre 300 et 600 euros. Et le lion, lui, est à 2750 euros.
Et les populations locales ont le droit de chasser aussi, j'imagine, c'est chez elles?
Oui, enfin, ils ne peuvent pas chasser le gros gibier parce que, évidemment, les taxes et les permis coûtent cher, d'abord. Ensuite, il n'y a pratiquement plus de zones... Enfin, il y a des zones villageoises, évidemment, mais il n'y a pratiquement plus d'animaux, de gros animaux sur ces zones. Les animaux reviennent sur le parc. Donc, non, ils chassent pas. Ils chassent très peu, un petit peu la plume. Mais au niveau des animaux, des antilopes et des buffles, ils chassent quasiment pas.
Ouais. Parce que pour chasser ici, sur ces zones de chasse, il faut forcément avoir un permis. Il faut payer pour chaque tête, de toute façon, même pour les gens des villages autour.
Oui, oui, bien sûr. Et vous devez vous acquitter d'un permis de grande chasse ou de moyenne chasse. Ensuite, tous les animaux abattus, des taxes d'abattage sont fixées par l'État béninois. Et il faut les payer, évidemment. Donc, bon, c'est vraiment beaucoup trop cher pour la plupart des gens ici qui vivent ici. Pour les populations qu'on a ici, ils ne peuvent pas se permettre ça. Bon, alors, à une certaine époque, une chasse traditionnelle villageoise, quand il y avait des animaux un peu partout, aujourd'hui, bon, ils ne peuvent plus chasser. Alors, bon, voilà. Par contre, l'intérêt de la chasse ici, c'est évidemment de faire rentrer de la recette pour le parc national. C'est aussi d'avoir une présence autour du parc, de façon à ce qu'on limite les populations. Enfin et surtout, il faut savoir que toute la viande abattue sur les 5 zones de chasse, donc ça représente quand même, je vous l'ai dit, 500 ou 600 animaux par an, toute cette viande est redistribuée gratuitement à tous les villages autour du parc national. Donc ils ont de la viande pour passer tout l'hivernage, et cette viande est gratuite, je tiens à le préciser. Elle leur est distribuée, amenée chez eux, et donnée gratuitement. En plus de ça, ils ont aussi, l'association des villages avoisinant le parc national, a droit aussi à 30% de toute la recette générée par les permis de chasse et taxes d'abattage, ce qui leur permet de faire des aménagements au niveau du village et de s'impliquer dans... Pas d'y trouver un intérêt, évidemment, parce que s'ils n'ont aucun intérêt à préserver la faune et la nature, ça ne peut pas marcher.
Quel est votre animal préféré à vous? Qu'est-ce que vous préférez rencontrer? Ce que vous considérez qui est un vrai plaisir dans votre journée à travers le parc, Serge?
Oui, j'aime beaucoup voir les lions. Parce que depuis que j'étais petit, on a toujours vu le lion sur les photos. Je n'avais jamais eu la chance de croiser un lion vis-à-vis comme ça. Mais depuis que moi j'ai commencé à travailler à la Pingarie en tant que chauffeur, vraiment, quand je vois les lions, ça me fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir quand je vois les lions.
Il y a du plaisir à voir les lions, mais c'est quand même dur d'entendre qu'un lion, ça vaut 2750 euros, Agnès Rougier. Alors les villageois, on vient d'en entendre parler. Est-ce qu'ils ont quand même le droit de chasser sur leur propre terre?
Alors dans la réserve de la Pingarie, dans la partie qui s'appelle la zone d'occupation contrôlée, effectivement, les villageois des 11 villages, de cette région-là ont le droit de chasser. Ils ont une petite zone, mais eux, ne chassent que le petit gibier. Ça s'appelle la petite chasse. Voilà. Alors c'est une zone de chasse communautaire. Ce sont les réserves villageoises de chasse ou Revica. Là, nous sommes au village de Porga. Et la Revica est entièrement gérée par les populations locales qui se sont organisées en association. Et donc, nous avons rencontré Daniel qui est responsable de la Revica.
Tous les gens qui sont là sont des anciens chasseurs, en fait, qui se sont reconvertis dans la chasse villageoise.
Oui, c'est les braconniers qui étaient permanents. Ils ont les primes de 3 000, 10 000 francs. Donc, ça va être quelque chose. Et...
Vous connaissez bien tout le terrain. Ah, monsieur.
Ici, c'est un rabatteur de Tanquari. C'est un rabatteur. C'est eux qui suivent avec les chasseurs. Si les chasseurs tirent les gibiers, et ils vont ramasser. Ici, c'est le ménagement des silences. Au temps du mois de novembre, quand commencent les feux précoces, on brûle. Il est chargé de faire les pistes avec la population choisie et on les fait au moins une somme, faire les pistes égales au mât. Ici, c'est Porga, il est représentant des peuples corses. Lui, il est chargé maintenant des peuples corses. Il amène les gens et ils font la brousse, ils brûlent tous les zones. Là, on peut chasser avec les gibiers.
La chasse, ça se passe quand? Quand est-ce que ça débute?
La chasse commence, nous, la chasse ouverte va être le 15 décembre. Maintenant, comment la chasse va être le 15? Ça commence le 15 décembre jusqu'au fin mai. Au 15 mai, la chasse termine. Maintenant, la chasse, nous avons des clients qui viennent en Europe, partout. Ils font 7 jours de chasse, les petits gibiers, pangolins, tourterelles, gangas, tous, etc. Et il repart, une équipe revient.
Alors, quels sont les gibiers, justement, pour avoir...
Pour avoir ici, nous avons les gibiers de quatre pattes. Nous avons le phacochère, le werribi, céphalope, et les babouins, et les oiseaux. Après, il y a les pintades, les canards, mais les canards chiffleurs, les pédris, et les gangas, et les pigeons runiers, pigeons verts, et les poules roches qui sont dans la zone de Zoc.
La chasse se passe à pied? Ou alors vous partez en voiture?
C'est avec les véhicules, puisque la chasse commence à partir, la pétition commence à partir 6h30. Et là, à 150 mètres, fait descendre les chasseurs avec les rabats. Ils marchent là où les points d'eau, les bas-fonds, là ils chassent. À 10h, 11h, une reprise vient. Et à 15h, on reprend la chasse. À 18h, on est à la passée du soir, les points d'eau, là où l'eau est un peu, les tourterelles viennent, les gangas viennent et ils tirent. À 19h, on reprit.
Et alors, juste avant l'ouverture, on a rencontré les messieurs qui s'occupent des pistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire absolument pour que la chasse puisse se pratiquer?
Les pistes, puisque nous avons les recettes de 2003-2004, que les chasseurs, quand ils viennent, ils nous versent une somme par chasseur. Et c'est ça qui prouve que on puisse payer les gens de nous faire les pistes qui allaient au mar.
D'accord. Est-ce que vous gagnez sur une saison permet de préparer pour la saison suivante?
Oui. Oui, mais c'est peu.
C'est peu?
C'est peu. Parce que, si maintenant on reprend, l'année passée, on avait eu du client, plus de 4 millions sur les trois villages, Brunsou, Batia, Porga. C'est ça qui nous a pu servir des pistes et encore faire les faibles causes aux gens.
Parce que, alors, vous n'aviez pas assez de clients, parce qu'on ne connaît pas, on n'en parle pas assez.
Voilà, parce que ces clients, il faut chercher clients, faut des gens qui connaissent en Europe, qui vont aller faire le marché au salon pour discuter et gagner les clients pour nous amener ici.
Chaque client va payer pour le droit de chasser, mais pas par animal, en fait.
Non, non, non. Chaque client, il vient. En 2003, en 2004, c'était 10 000 francs par chasseur. Maintenant, cette fois-ci, avec le directeur, on a vu, voilà, ça évolue, ça évolue. Mais les gens ont compris, les gens protègent les gibiers. Maintenant, on dit maintenant, il faut 20 000 francs par chasseur et 3 000 francs par les rabatteurs, les gens qui ramassent des oiseaux pour pouvoir bénéficier. 3 000 francs par les rabatteurs et le revica met dans la caisse.
On vous remercie beaucoup. Vraiment, quand je cherche, c'est l'espoir de trouver. Et aussi, l'homme est toujours là pour chercher. Mais ça ne suffit pas. Comme c'est une petite chasse, voilà que les tourterelles aiment d'eau. Qu'allons-nous faire pour faire les barrages, pour qu'ils se rassemblent là? Merci.
De la Pandiarée aussi, les réserves. Lui, c'est le président avec greffe, Larry Stangueta. Et voilà ce qu'il a pu étudier, amener ce projet. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient braconnage. En ce temps, ils venaient chercher dans le village, il y a plus de 1000 pintades, ils embarquent. Maintenant, ça ne passe pas. Aujourd'hui, c'est un projet qui est créé, Rivica. Quand la chasseur vient ici, s'il y a 5 chasseurs qui tuent 40 gibiers, ils prennent 20 et la population garde 20. et après on vend moins cher aux gens qui ne trouvent pas la viande à manger, c'est-à-dire 15 jours. Puis que la pintade était, quand le braconnier tue, c'est 500 francs. Ici, la pintade, c'est à 250 pour que tout le monde bénéficie, pour que c'est une bonne chose à lutter pour l'avenir. Il vous remercie beaucoup aussi, le directeur, de lutter, puisqu'il n'y aura plus des mares, des points d'eau pour que les gibiers restent. Sans ça, on ne peut rien. S'il y a des points d'eau, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va durer pour des siècles jusqu'à la vie de nos enfants. Et aussi aider le directeur, puisque nous trouvons un moyen de financement pour des points d'eau. Si vous allez en Europe de parler ça, pour que nous, on sait, mais on veut faire, mais on ne peut pas, avec cette recette, ça ne peut pas faire quelque chose, des points d'eau.
Vous avez demandé des points d'eau, le monsieur de la Vigresse disait qu'il n'y avait pas assez de points d'eau parce que ça serait le moyen de garder les gibiers
voilà,
ici.
Voilà, puisque nous avons des gibiers, exactement, puisque les pintades, les canards armés maintenant, c'est plein dans le mois de décembre et au 10 janvier. Après les malades, l'eau tarie. Et maintenant les oiseaux repartent, on n'a pas de gibier.
Si vous voulez en savoir plus sur le parc de la Pandjari, pas sur la chasse, hein, mais sur le parc, www.pandjari.net. Alors Agnès Rougier, quelle est la situation dans d'autres réserves de biosphère, par exemple à la mare aux hippopotames au Burkina Faso, où vous avez fait aussi là un reportage?
Alors la mare aux hippopotames au Burkina, Anne-Cécile, est une toute petite réserve, c'est la plus petite de l'Afrique de l'Ouest. Elle est située à 60 km de Bopodioulasso. Il y a donc une soixantaine d'hippopotames, de pachydermes. C'est un écosystème de mangroves qui a été classé en 1981 par l'UNESCO. Là, on ne peut pas chasser. Par contre, on peut y aller, effectivement, faire un safari, mais uniquement pour la beauté de la nature et les animaux. Les animaux sont très nombreux, ils sont très présents. Sauf que, évidemment, qui dit animaux dit, dans une région pauvre, risque de braconnage. Donc les villages là se sont réunis, les six villages qui bordent la réserve se sont réunis pour mettre en place des patrouilles communales. Et donc il y a des volontaires qui sont des éco-gardes, des surveillants villageois. Nous avons rencontré Zosun Milogo qui est le président de l'association des villageois, il est aussi notre interprète. Mais avec lui il y a de nombreux surveillants villageois comme Adama et Patrice Milogo et Adama Sanou que nous allons entendre. Alors ensemble, ils nous expliquent en quoi consiste le travail au quotidien.
Dès que les surveillants sortent, la moindre trace qu'ils observent, ils sont censés de le suivre. Quand c'est une trace d'un animal qui est pris dans un piège, à quelques 2 ou 3 mètres, ils doivent le savoir. Et si c'est un animal qui est pris dans un piège, si c'est un carnivore, ils doivent savoir comment il faut se comporter. Si c'est un herbivore également, ils doivent savoir comment se comporter. À quelques mètres, en tout cas, vous allez voir et les indices, les empreintes de l'animal et les traces du piège. Et s'il arrive que l'animal a été tiré, par exemple, par un braconnier, vous allez voir les traces de sang et comment l'animal s'est débrouillé pour partir. Vous allez savoir exactement dans quel sens il est parti et comment vous deviez vous organiser pour que vous ne le surpreniez pas. Comment vous allez vous débrouiller pour, en tout cas, retrouver sans que l'animal ne porte atteinte à quelqu'un.
C'est un métier difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dangereux ou c'est difficile ou c'est très agréable? Parce que quand même, être dans la réserve, j'imagine que si vous avez choisi de l'être, c'est que ça vous plaît.
Voilà qu'on va la phrase de Gatébal. Quel est l'état de quel avec Djera, quel est Djera? Parce que à quel moment vous n'avez pas été avec quelqu'un ou les. Parce que un deux jours à Mandi, un brinti à Mandi.
Il dit que bon, c'est un travail qui les plaît, mais il faut reconnaître que tout travail a un risque. Dans la réserve, ils sont face aux braconniers, ils sont face aux éleveurs. C'est des gens qui ne les aiment pas, donc il faut s'attendre à tout. Voilà.
Mais quand ils sont face aux animaux, là par contre, c'est pas dangereux.
Bon, en condition, parce que nous, lui, Amalamna Ketchoumouna, Ankanachinoumou.
Voilà, il dit que les animaux, par exemple, lui, il trouve que ça, ce n'est pas un problème parce que dès qu'ils voient un animal, ils savent comment il faut se comporter par rapport à cet animal. Un animal sauvage, si dès qu'ils le voient, ils savent quelle est la conduite à tenir. Ils savent se porter par rapport à l'animal. Mais quand c'est quelqu'un qui veut ses intérêts et il les défend, ça peut être autre chose.
Ouais. Voilà. Vous êtes armé pour votre travail? Vous êtes armé pour les patrouilles ou pas?
Marfin t'en fait.
Rien.
Non, pas de marfin.
Non, ils ne portent pas d'armes.
Mais quoi, un bâton, quelque chose quand même, ou bien vous allez vraiment les mains dans les poches?
Amdou entre la colère parce que ça l'a tant fait, même si elle n'aime pas faire un marathon, même si elle n'aime pas faire un marathon.
À part les machettes, ils n'ont aucune arme, leur travail ne consiste pas à appréhender.
Ça ne doit pas être facile alors, parce que trouver un braconnier sans pouvoir l'appréhender et être un peu désarmé, ça doit être compliqué parfois. Il y a beaucoup, ça vous arrive souvent?
Je crois que ce n'est pas facile du tout. Quand on est face à des braconniers comme ça, bon, généralement, s'ils nous voient, ils savent que nous sommes en nombre. Ce qui fait que les surveillants sont au nombre de 20. Et quand ils se déplacent, ils sont répartis en 3 groupes. Ils sont au nombre de 7 au minimum par groupe. Et quand ils se déplacent ensemble. Les 7 vont ensemble. Et donc, compte tenu que actuellement dans les villages, nous sommes tous... Parce que si ce n'est pas un braconnier venu d'une autre zone, s'il est c'est un ressortissant de la zone ici, il ne peut pas faire face à nos surveillants parce qu'il doit avoir soit un petit frère ou un parent propre de son village. Et dès qu'il est vu, il est connu. S'il y a mal, il ne peut pas apporter atteinte aux 7 personnes en même temps. Ça veut dire qu'il ne va pas échapper. Ça fait que maintenant, un braconnier les voit, il se range. Et s'il y a lieu, on amène le problème au niveau de la GIREF ici. Moi, je vois les sages, on convoque une rencontre, on fait venir l'intéressé, et au niveau social ici, on essaie de trouver une solution au problème. Et si cela n'est pas fait, si la personne persiste, là maintenant, on fait recours au service policier. Et c'est comme ça que ça se passe. Sinon, les cas de pièges que nous avons vus, il y a eu des guides pris dans les pièges qu'on a pris. Il y a des gens qu'on a pris avec des pièges et des animaux saisis. Donc tout ça là, on a eu des cas comme ça. Mais on a toujours eu solution de résolution.
Parce que l'idée, c'est d'arriver à les dissuader par la formation, par la connaissance.
Voilà. Donc à notre niveau ici, les surveillants ont eu quand même un minimum de formation, mais ils n'ont pas été militairement formés. Ça, cet aspect est exclu. On n'a pas fait ça, mais les aspects de se comporter, la sensibilisation, comment approcher quelqu'un, bon, ils ont cet aspect-là. Donc ils sont plutôt sensibilisateurs que répresseurs. Donc dans ce cadre-là, à notre niveau ici, je crois que on n'a pas eu un problème, en tout cas, qui a dépassé notre niveau pour le moment, parce que les gens... Au début, non, ils n'avaient pas compris, mais maintenant les gens ont compris parce qu'ils sont tous dedans, parce que chacun a son fils ou son frère qui est dans le circuit. Tous les 10 villages sont représentés au sein de la surveillance. Et on n'a pas réparti les villages, on a mélangé tous les surveillants et on a fait une division par 3. Donc, un de Molokadou peut se retrouver vers Padema en patrouille, un de Padema peut se retrouver vers Bala ici en patrouille. Donc, vous ne pouvez pas savoir quel groupe peut tomber sur vous. Et si un groupe de surveillants tombe sur vous, il faut reconnaître que sur 3 villages, il y a un des 3 villages qui fait partie de l'équipe. Donc vous êtes forcément dans les zones ici, on se connaît tous.
Depuis que vous avez commencé en 2005, on a constaté une baisse du braconnage?
Oui. On peut dire qu'il y a eu baisse de braconnage parce que dans les temps, au début de la surveillance, même nous, sauf que on est tous natifs de la zone ici, on connaît qu'est-ce que c'est qu'un piège, comment on tend un piège, sinon que beaucoup de surveillants devaient avoir des pieds coupés maintenant. Il y a des pièges qui peuvent attraper les buffles, les cobas, et ainsi de suite. Mais il y a tous ces pièges-là, on a désamorti ça. Il y a une partie qui est déposée à l'écomusée que vous pouvez voir. Et il y a une grande partie également au poste forestier là-bas. Donc, on a désamorti tous ces pièges. Mais maintenant, les pistes-là sont libérées. Vous pouvez prendre une piste d'animaux et vous continuer sur la piste jusqu'à sortir d'un transect à l'autre sans tomber sur un piège. Dans le temps, ça ne pouvait pas se faire. Si vous rentrez, à chaque 1 km, soit vous trouvez un piège devant un trou, ou bien vous les trouvez sur une piste d'animaux. Mmh. Voilà. Mais maintenant, ça a diminué. Donc, je peux dire que ça a diminué. Les douilles, on pouvait les ramasser à 20, 10 par sortie. Mais maintenant, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire une semaine sans voir de douilles. Peut-être qu'ils peuvent changer de stratégie, mais ce n'est pas forcé qu'un chasseur qui poursuit réellement puisse tirer et puis retenir ses douilles. C'est pas... Voilà.
Alors le problème, Agnès Rougier, c'est que ces éco-gardes qui protègent donc les animaux du braconnage n'ont plus de financement aujourd'hui.
Oui, c'est un vrai problème parce qu'en fait, les programmes de préservation ont été mis en place. Il y avait des financements qui avaient commencé, notamment par le PAGEN, le projet de partenariat pour l'amélioration de la gestion des écosystèmes naturels au Burkina Faso, financé par la Banque mondiale, a commencé en 2003 pour 15 ans, mais malheureusement, s'est arrêté sans prévenir en 2007. Depuis, ils travaillent gratuitement, c'est-à-dire combien de temps vont-ils pouvoir tenir ?
Alors pour conclure, Agnès, on voit bien à travers vos reportages que ce soit au Burkina Faso ou au Bénin, une fois de plus, les intérêts des humains sont contraires à ceux de la nature.
Oui, mais c'est vrai que quand même dans les réserves de biosphère, la ligne de conduite générale que tout le monde respecte, c'est de travailler dans le sens de la conservation, c'est de travailler avec l'environnement, dans l'environnement, en prenant en compte toutes les nécessités pour préserver quand même ce qui reste de cette magnifique nature qu'il y a là-bas.
Même en faisant la promotion de la chasse.
Oui, ça peut paraître paradoxal et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de s'occuper de la forme quand on compte les animaux et pas du fond, mais je pense qu'il y a un effort réel.
Merci Agnès Rougier. Demain, c'est Pas du Vent, on parlera de l'éducation à l'environnement avec les petits-enfants. Ces reportages étaient réalisés avec l'UNESCO. Merci, à demain.